Vous écoutez l'écho du Félipé, 19e édition du Festival du Livre de la Presse d'écologie Félipé 2021. Écoféminisme au-delà des sorcières. Une table ronde avec Jeanne Burgal-Goutal, Jules Falquet et Geneviève Pruvot. Bonsoir à tous, bienvenue à cette table ronde nommée Écoféminisme au-delà des sorcières. Donc l'idée c'est que les écoféminismes sont redevenus fort à la mode ces dernières années. Mais comment éviter que ces mouvements radicaux perdent toutes leurs valeurs transformatrices ? Au-delà des sorcières, quelles sont les questions structurelles qui lient les écoféminismes au vivant et font face au rouleau compresseur qu'est le capitalisme ? Que ce dernier s'exprime à travers le nucléaire, l'industrie, le militaire et d'autres. Il récupère continuellement tout ce qui le combat. L'occasion de revenir sur les fondements théoriques et philosophiques des écoféminismes, de discuter des luttes en cours, un peu partout sur la planète, et sur les manières de les incarner et de les pratiquer au quotidien. Donc pour cela, on va avoir un échange entre Jeanne Burgal-Goutal, agrégée de philosophie, autrice de « Être écoféminisme, théorie et pratique » chez L'Échappée, et de sa nouvelle bande dessinée qui vient de paraître la semaine dernière, « Resister », chez Tana Édition. Ensuite, nous avons Jules Falquet, sociologue du genre, autrice du livre intitulé « Imbrication, femmes, race et classe dans les mouvements sociaux » aux éditions du Croquant, et Pax Neoliberalia, perspective féminisme sur la réorganisation de la violence chez X. Et pour finir, nous avons Geneviève Pruvot, sociologue du travail et du genre à l'EHESS, autrice de Quotidien politique, féminisme, écologie, subsistance à la découverte, et il y a quelques années, penser la violence des femmes. Donc, qu'est-ce que l'écoféminisme pour chacune d'entre vous ?
Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à tout le monde, tous, toutes et les autres. On est d'abord, je pense, je m'exprime au nom de nous trois, mais on est très heureuses d'être là pour discuter avec vous. On a auto-organisé un petit peu cette discussion et ce dont on a envie particulièrement, c'est que vous ayez la parole. Donc, on essaiera de pas trop être longue, et n'hésitez pas vraiment à poser des questions, éventuellement même peut-être à nous interrompre. On a pensé la discussion en deux blocs, donc il y aura deux moments tout particulièrement ouverts aux questions, mais tout le temps est ouvert aux questions. Est-ce que ça vous convient pour cette heure et demie qu'on passe ensemble ? Alors du coup, moi je m'appelle Jules Falquet, et la première question qui nous a été posée, qu'est-ce que c'est pour nous l'écoféminisme. Donc vraiment, en revenant sur le titre de ce débat, on avait toutes les trois envie d'aller au-delà un petit peu du cliché ou des clichés qui peuvent exister autour de l'écoféminisme, et notamment des simplifications. On n'a rien contre les sorcières, bien au contraire, hein, mais on estime que l'écoféminisme, c'est quelque chose, on estime toutes, et chacune dira après plus précisément, mais on estime toutes que l'écoféminisme, c'est quelque chose d'assez sérieux, d'assez profond. C'est un ensemble de compréhensions et de mouvements sociaux dans les pays du Sud et les pays du Nord, à la campagne, en ville, enfin dans différents milieux, venant aussi bien de femmes racisées, de femmes prolétarisées, que de femmes urbaines et de classe moyenne blanche. Voilà. Donc c'est un petit peu de ça dont on voudrait parler. Et moi, je voudrais rappeler en premier lieu le travail que vous connaissez probablement de deux fondatrices, justement, qui ont écrit ensemble, volontairement, l'une étant une femme du Sud, Vandana Shiva, de l'Inde, et l'autre étant Maria Miss, une femme allemande, une marxiste féministe allemande. Et elles ont écrit ensemble un livre qui s'appelle « Écoféminisme » et qui a été publié, il est de 98, si ma mémoire est bonne, et il a été traduit bénévolement par une féministe belge décédée depuis, mais qui faisait partie des Femmes en Noir, donc les Femmes en Noir, un mouvement international féministe contre la guerre. Donc je pense que ça situe un petit peu. Et il avait été publié à l'époque dans la collection Femmes et Changement, une collection d'une petite association féministe à l'Harmattan, pour laquelle moi-même j'ai travaillé par la suite, et j'ai fait un rapport qui s'est appelé « Écologie quand les femmes comptent » pour la conférence de Johannesburg en 2002. Donc tout ça pour vous dire que Vandana Shiva et Maria Miss, dans leur introduction de « Écoféminisme », qui est un ouvrage très très intéressant, hein, que je recommande à tout le monde de regarder, insistent sur et racontent un petit peu l'histoire du mouvement, et elle remonte aux années 70 notamment, et elle remonte d'une part à des luttes antinucléaires et d'autre part à des luttes antimilitaristes. Et ça, ça me semble vraiment très important pour comprendre l'écoféminisme, justement, au-delà des sorcières. Même si certaines de celles qui ont notamment protesté contre les camps militaires et les missiles nucléaires à Greenham Common, en Grande-Bretagne, pendant 10 ans, il y a eu un campement de femmes et certaines se considéraient et faisaient des actions qu'on pourrait appeler de sorcellerie contre les missiles. Mais donc c'est vraiment pour insister sur cette dimension très très structurelle, très radicale, avec une critique du militarisme et de la guerre, une critique... en fonction aussi de perspectives de politique internationale et pas du tout seulement autour de l'idée que parce que nous serions des femmes, nous aurions une gentillesse innée ou un intérêt pour nos enfants, etc., puisque tout un tas de femmes n'ont pas d'enfants, ne souhaitent pas en avoir, ou même si elles en ont, c'est pas l'unique motif de leurs actions politiques. Voilà. Donc vraiment, cette dimension antimilitariste et antinucléaire me semble très très importante à rappeler, nucléaire, civile et militaire, puisque une des choses que rappellent Vandana Shiva et Mariami, c'est notamment le premier accident très grave de Three Mile Island en 78 ou 79 aux États-Unis, avant Tchernobyl et avant Fukushima. Mais accident qui a bien évidemment... beaucoup inquiété et qui a montré déjà à l'époque le très grand danger du nucléaire. J'insiste là-dessus, sachant que la France est le pays, comme vous le savez, le combienième plus nucléarisé au monde ? Premier, deuxième, troisième, quatrième ? Premier, voilà. Et vous avez vu qu'il nous est promis un avenir encore plus nucléarisé, donc je pense que c'est un sujet qui est vraiment tout à fait pertinent à aborder ici aujourd'hui. Voilà, je ne veux pas être trop longue, peut-être je te donne la parole. Qu'est-ce que tu dirais de l'écoféminisme et ensuite Geneviève ?
Merci. Bon, ce n'est pas facile de définir l'écoféminisme comme ça, donc je ne vais pas m'y risquer. Mais je vais plutôt, comme la question était qu'est-ce que c'est l'écoféminisme pour chacune d'entre nous, moi je vais juste souligner ce qui m'a intéressée là-dedans en tant que philosophe hein, ou prof de philo. Donc il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes dans l'écoféminisme et toutes les luttes sociales, les mouvements concrets sont super intéressants. Mais là, je vais avoir une approche plus philosophique, plus théorique. Et de ce point de vue-là, en fait, moi, ce que je trouve très intéressant dans l'écoféminisme, même quand on n'est pas écoféministe et qu'on n'est pas d'accord avec les théories écoféministes et avec les analyses écoféministes, c'est que c'est une grille de lecture du réel et une grille de lecture à la fois de la réalité et des discours qui structurent notre pensée et notre rapport au monde, qui est super puissante. Et on peut dire que d'un point de vue philosophique, l'écoféminisme, c'est un mouvement au sens d'un changement de perspective. Philosophiquement, moi, c'est ça la première chose qui m'a vraiment marquée quand j'ai découvert l'écoféminisme. C'est que ça m'a permis de comprendre que habituellement, l'ensemble des discours qui structurent ce qu'on tient pour la vérité et ce qu'on nous apprend à l'école. Voilà, en plus, moi, je suis prof au lycée, donc je vois bien, je continue à voir, même à mon âge avancé, ce qu'on apprend à l'école. Et avec la grille de lecture écoféministe, on s'aperçoit que ce qu'on apprend à l'école, ce qui est majoritairement transmis dans les médias, dans les films, dans les séries, dans les pubs, à la télé, dans les discours voilà, qui structurent ce qu'on tient pour la vérité, c'est fait, en fait... derrière un masque de neutralité ou d'objectivité, c'est fait à partir d'un certain point de vue et à partir d'un certain nombre de biais, de présupposés, de postulats que les écoféministes ont vraiment mis en évidence. Et elles montrent que ce soit les théories philosophiques, l'imaginaire religieux, l'économie, à la fois dans ses structures matérielles ou concrètes et dans les théories qui les sous-tendent, le fonctionnement des institutions, etc., que tout ça, en fait, est fait du point de vue d'une position dominante, qu'on peut appeler masculiniste ou patriarcale ou occidentale, au centré. Voilà, il y a plein de manières différentes de l'aborder. Mais ça met vraiment... ces lunettes écoféministes permettent de voir à quel point tout est vu d'un certain point de vue, un point de vue dominant, et ça permet d'apprendre à déconstruire ce point de vue-là. Et alors, c'est très désagréable, mais une fois qu'on commence à aborder l'écoféminisme et à rentrer là-dedans, on s'aperçoit à quel point ce schéma-là, patriarcapitaliste, est envahissant. Et il se retrouve dans la moindre pub, le moindre texte qu'on lit, le moindre roman, etc. Donc il y a déjà cet aspect-là qui est intéressant pour moi dans l'écoféminisme. Et là encore, même si on n'est pas d'accord avec tout, qui est d'offrir ces lunettes qui donnent une analyse du réel, qui est voilà, une arme de déconstruction massive de ce qu'on nous apprend. Et peut-être juste le deuxième point, philosophiquement, et là aussi dans l'idée d'aller au-delà des sorcières, c'est que ça donne aussi un outillage conceptuel pour se positionner dans toutes sortes de débats qui animent la gauche, on va dire, ou l'écologie, ou le féminisme, ou les mouvements décoloniaux, et que ça permet, là aussi, à partir d'une théorie qui cherche à penser les articulations entre les différentes formes d'oppression ou de domination, de disposer d'un outillage conceptuel qui met le doigt sur la façon dont, historiquement, les dominations se sont articulées. Ce qui est un garde-fou contre toutes sortes de dérives qu'il peut y avoir dès qu'on sépare les problèmes. Donc, bon, c'est un peu abstrait ce que je vous dis, mais ça se précisera au fur et à mesure. Voilà, en tout cas, philosophiquement, pour moi, l'intérêt de l'écoféminisme. Et Geneviève, je te laisse la parole.
Pour moi, l'écoféminisme, c'est une pensée radicale, marxiste, révolutionnaire. Et c'est un changement de perspective, notamment sur la conception historique très étrange qui consisterait à penser que le capitalisme moderne et la modernité seraient extraordinaires pour les femmes et l'humanité en général et la Terre encore plus généralement. Et donc, en fait, l'écoféminisme, c'est effectivement une arme de destruction massive qui dénaturalise totalement l'évidence que l'industrie, y compris Marx lui-même avait dit que l'industrie était un moment nécessaire pour ensuite arriver au communisme, eh bien, les écoféminismes nous aident même à balayer complètement le progrès industriel en tant que tel, en montrant à quel point l'industrialisation, qui est donc une révolution du travail, au sens, c'est une réorganisation complète du travail, s'appuie sur la destruction des sociétés paysannes, et il s'agit absolument pas d'enchanter les sociétés paysannes, mais pas non plus d'enchanter la prolétarisation du monde et sa délocalisation extrême dans le sud global. Et donc, en fait, les écoféministes, elles pensent tout ça ensemble. Elles pensent une histoire de très longue durée et elles pensent une sorte de devenir planétaire du progrès. Et donc, elles peuvent pas séparer dans leur réflexion le moindre geste qui consiste à prendre ce gobelet et elles le relient immédiatement à une chaîne de production et à toutes les petites mains qui conduisent au simple fait d'avoir de l'eau à boire. Et donc, cette vigilance-là, c'est plus qu'une vigilance, c'est en fait... c'est extrêmement important parce que ça va bien au-delà de la, je sais pas, d'une écologie du petit geste, puisqu'en fait, à travers un geste, on embrasse l'intégralité des dominations puissantes qui font qu'aujourd'hui, on a le mode de vie qu'on a. Donc, elles remettent en question radicalement des formes d'émancipation. C'est assez douloureux parce que ça pose des questions assez rudes, en fait, du type est-ce que faire carrière pour une femme, c'est super? Au sens, ça veut dire qu'on collabore à un type de hiérarchie sociale, d'organisation du travail, qu'on va aussi déléguer à des tierces personnes des tâches de subsistance. Et donc, moi, l'écoféminisme qui m'a le plus intéressée, c'est l'écoféminisme qui pointe absolument la catastrophe que c'est d'avoir détruit l'économie de subsistance et de l'avoir balayée de nos existences quotidiennes. Et ça, pour moi, c'est une des vertus principales de l'écoféminisme. Et comme toi, la lecture de ce livre, Mariamis et Vandana Shiva le dites toutes les deux, en fait.
Du coup, tu m'as fait signe, je me suis sentie interpellée. Vous n'avez... Attends, allez-y.
Alors oui, l'économie de subsistance, c'est assez important, parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins... Alors, c'est pas une économie de la survie. Ça, c'est un truc assez singulier, c'est qu'on imagine que avant l'industrie, les gens mouraient forcément de faim, et que les peuples paysans, avant que l'industrie arrive, sont affamés. En général, ils le sont parce que les militaires sont arrivés, ont détruit les cultures. Mais ça, c'est disons les choses autrement. L'économie de subsistance, c'est la capacité de pouvoir aussi bien se nourrir, se vêtir, avoir un artisanat, c'est-à-dire fabriquer son outillage, mais aussi commercer avec un certain nombre de ressources qui sont dans un rayon proche, et avec un système d'échange aussi qui permet de ne jamais perdre de vue l'environnement. Et donc ça définit des économies de subsistance, et c'est à peu près l'intégralité de la planète avant l'industrie.
Et pour aller dans le même sens, ça rejoint un peu ce que disaient certains anthropologues comme Clastres ou comme Salins, âge de pierre, âge d'abondance, c'est-à-dire pour aller contre l'idée que seulement aujourd'hui nous vivrions bien avec tous ces moyens techniques, etc. Vous avez la parole.
Juste, oui, j'avais une petite question parce que moi j'aborde beaucoup l'écoféminisme à travers Françoise Daubonne. Et là, il semble comme une évidence que l'écoféminisme est marxiste. Alors que dans la pensée de Françoise Daubonne, justement, ce que je trouve super intéressant, c'est que la force émancipatrice de l'écoféminisme, elle attaque d'abord la structure patriarcale, d'abord la dynamique productiviste et industrialiste, qu'elle pointe aussi du côté de la pensée marxiste. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'écoféminisme, ça permet de penser effectivement l'articulation de toutes les dominations, de s'en émanciper à un moment de l'histoire de l'humanité où on est un peu à un moment un peu vertigineux et où les socles de pensée classiques, finalement, sont plus vraiment opérants puisqu'on est face à une urgence écologique qui met en péril assez directement et de manière assez proche la survie de notre espèce, en fait.
En fait, pour aller un petit peu dans ce sens et compléter, Shiva et Miss, en fait, elles expliquent, je pense que quand on dit marxiste, ça ne veut pas dire marxiste exactement ce qu'a écrit Marx au moment où il l'a écrit, puisqu'il était dans une autre période, une autre réalité, mais elles insistent beaucoup sur le fait que, en réalité, le système moderne occidental, qu'on peut dire aussi moderne colonial, il repose sur une triple logique d'oppression et de domination des femmes, des peuples colonisés et de la nature. Et en fait, donc, on pourrait le dire dans un autre vocabulaire en termes de sexe, de classe et de race. Mais bon, c'est vrai que l'écoféminisme, bien sûr, il part d'un point de vue féministe, donc notamment d'un intérêt pour les rapports sociaux de sexe et d'une logique antipatriarcale, mais en imbrication étroite, à mon avis, avec des logiques antiracistes, anticoloniales et des logiques anticapitalistes. Donc, en ce sens-là, entre guillemets, marxiste, c'est dans ce sens, je pense que...
Si je peux compléter. En fait, c'est vrai que le rapport de l'écoféminisme au marxiste, c'est super important et intéressant. Parce que, alors, déjà, dans la sorte de nébuleuse écoféministe, il y a un certain nombre de théoriciennes qui se sont beaucoup plus référées à des penseurs anarchistes, notamment aux États-Unis, ou par exemple au municipalisme libertaire de Murray Bookchin, ou donc voilà, à des filiations qui relèvent plutôt de formes de pensée politique anarchiste. Après, en Europe, que ce soit en Italie ou en Allemagne, Mariami, c'est vrai que la référence, le socle de pensée politique, c'est plutôt le marxisme que l'anarchisme. Donc là, il y a un peu une différence géographique. Enfin, il y a pas mal de différences en fait entre les écoféministes états-uniennes et européennes, notamment sur cette question-là. Mais même celles qui se réfèrent au marxisme, donc comme Maria Miss, il y a toujours ou Ariel Salleh, donc qui est une écoféministe australienne. Dans leur bouquin, il y a souvent des chapitres de discussion théorique de Marx. Et en fait, à la fois, elles s'inscrivent. Bah, comme souvent, en fait, dans l'histoire de la pensée, il y a une sorte de truc d'enfant rebelle, en fait, qui s'inscrit à la fois dans la filiation d'un auteur tout en corrigeant ou donnant une nouvelle inflexion à leur concept. Donc, en ce qui concerne Marx, souvent, donc pour ces écoféministes de tradition marxiste, elles reprennent l'analyse du capitalisme de Marx en disant on peut analyser le capitalisme comme un système d'exploitation. Mais elles apportent une double inflexion en disant en fait ce que Marx et Engels n'ont pas vu en définissant le capitalisme comme exploitation du travail salarié par le capital. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est en fait toutes les formes de surexploitation masquées. Alors il y a c'est trop petit. Mais en fait, bon, dans le roman graphique là que je viens de sortir, on a avec Aurore Chapon, la dessinatrice, on a fait un dessin inspiré d'une illustration de Maria Miss sur la pyramide du capitalisme patriarcal. Mais si je vous montre ça, c'est trop loin, vous verrez rien. Mais c'est assez éclairant parce que, en fait, c'est un schéma qui montre que quand on part de Marx, on voit donc analyse du capitalisme comme exploitation du travail salarié par le capital. Et ce qu'elle dit, c'est vrai, mais en fait, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Et au-dessous, il y a toutes sortes d'exploitations de travail, mais qui n'est souvent même pas conceptualisé comme du travail ni par les théories économiques libérales, ni par les théories économiques marxistes. Donc le travail domestique, le travail informel qui n'est pas pris en compte dans les calculs de PIB, le travail des esclaves ou le travail dans les colonies ou anciennes colonies, néocolonies, et aussi ce qu'elles appellent le travail de la nature, c'est-à-dire tout le travail des lombriques, des micro-organismes qui s'activent pour régénérer les sols et permettre la production, et qui sont vraiment ce travail-là, qui est généralement, même ça paraît presque un peu bizarre d'appeler ça travail, mais elles insistent sur l'idée que c'est du travail, c'est une activité productrice et indispensable à toute production. Donc voilà, il y a ce rapport-là, et donc ça les conduit à critiquer ce qui relève du productivisme, par exemple dans l'idéologie marxiste. Et c'est vrai qu'actuellement, on voit bien, ça fait quelques années, mais qu'effectivement dans les concepts politiques qui structurent les partis de gauche en France, il y a vraiment cette interrogation du marxisme autour de sa cécité à l'égard de l'impact écologique du productivisme. Et avec l'écoféministe, ça rajoute la focale sur la dimension colonialiste et sur les rapports de genre qui effectivement avaient échappé à Marx et à Engels, qui avaient eu tendance à définir l'activité des femmes comme accomplissement des fonctions naturelles et pas du tout comme quelque chose qui faisait partie de l'économie capitaliste.
Oui, non, j'ai employé le terme marxiste parce qu'effectivement, c'est quasiment un morceau de bravoure dans tous les livres écoféministes, et Françoise Daubonne en fait partie, de s'attaquer à Marx, Engels refaire aussi une autre histoire proposée. Mais ce qui est très très fort dans cette fameuse pyramide là, c'est que ce travail fantôme, en quelque sorte, pour prendre encore un autre terme d'un autre auteur qui est Illich, qui était proche de certaines des écoféministes allemandes notamment, c'est que ce travail fantôme il est double, parce qu'en plus il y a une sorte de problème historique qui fait qu'on emploie les mêmes termes pour des réalités totalement différentes. C'est-à-dire que quand on parle du foyer ou de la famille, ou quand on parle du travail domestique, c'est juste absolument c'est le même mot. Mais juste, si c'est du travail de subsistance relié à des terres agricoles à portée de main dans une société de paysans, artisans et de paysannes, artisanes, ça n'a juste pas du tout la même fonction que du travail domestique en ville, fondé sur un travail de consommation, parce que la consommation, ça reste un travail aussi, et en plus qui est adossé à un système industriel qui nous conduit à l'autre bout de la planète pour qu'il y ait une confection délocalisée. Et donc, la prise en compte de ce travail, cette fameuse pyramide, là, c'est qu'elle prend pas simplement le travail de la nature ou le travail des femmes qui serait invisible, mais le travail de tous les peuples mis au travail, et aussi le travail de subsistance qu'il va falloir de toute manière en bout de chaîne accomplir. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça, cette invisibilité complète. Et je pense que ça fait partie quand même des tours de force de l'écoféminisme, d'avoir cette vigilance historique, conceptuelle, pour pas, insister aussi sur les différences familiales, tout simplement. Enfin, je veux dire, on a des organisations familiales extrêmement réduites à l'hétérosexualité, à une famille extrêmement réduite aux enfants, à deux enfants de parents, alors qu'elles ont en ligne de vision de toute autre forme d'organisation. Effectivement, elles ont en cela une véritable passion, en fait, aussi, qu'on pourrait appeler de l'appropriation culturelle dans certains cas, c'est vrai, mais passion aussi pour les peuples autochtones, c'est-à-dire d'autres organisations à la fois politiques, d'autres mais qui sont vraiment où justement la subsistance se trouve vraiment au cœur de la distribution des statuts, mais aussi des formes d'égalité qui rejouent des éléments entre les sexes qui sont assez qu'il faut savoir interpréter et pas juger juste à l'aune de ces bonnes femmes font frais le ménage. On est dans les sociétés de subsistance, c'est vraiment vital et crucial, donc c'est pas n'importe quelle activité. Et donc il y a aussi cette dimension-là qui est, à mon avis, consubstantielle au mouvement écoféministe, même si ça n'a pas toujours été fait parfois avec beaucoup de... Mais elles ont été très tôt, dès les années 70, enfin la fin des années 70, 1980, vraiment en prise avec le féminisme du Sud, en fait.
Ouais. Merci. C'est parce que peut-être, c'est pas évident, mais moi j'ai travaillé essentiellement... en Mésoamérique et de manière générale sur le continent appelé américain, qui s'est rebaptisé Abiyala. Et donc, notamment, j'ai pas mal travaillé avec des sociétés paysannes et autochtones, et ou afrodescendantes. Et notamment aussi, j'ai travaillé sur la question du féminisme, ce qu'elle-même appelle le féminisme communautaire, donc d'un certain nombre de femmes autochtones, notamment en Bolivie et au Guatemala. Mais je veux bien en parler, mais je voudrais dire à propos des autres formes de travail invisibilisées et qui sont interrogées de manière tout à fait intéressante par certaines logiques écoféministes très radicales et très peu connues. Donc je profite pour faire une page de publicité, et ce sont des Allemandes aussi. Ce sont, alors j'essaie de bien l'organiser, avec Françoise Daubonne. Françoise Daubonne, c'est très très intéressant, et donc c'est la personne, c'est la féministe qui a proposé ce terme d'écoféminisme, hein, avec L'écoféminisme ou la mort, son bouquin. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toute une partie de son raisonnement sur la question de la fertilité et la fécondité des femmes, et la question démographique, la question de la soi-disant bombe démographique qu'elle met en avant, parce que là, il y a vraiment une question, un entrelacement des questions de sexe, mais aussi de race et d'eugénisme qui pose problème. Et vous allez voir où je veux en venir, parce que il y a un livre très très intéressant, je saute et je vais en avant et en arrière, mais vous allez voir. Il y a un livre très intéressant de Vandana Shiva, également publié dans la même collection Femmes et Changements, que je vous recommande, qui s'appelle Éthique et agro-industrie, main basse sur la vie. C'est un tout petit livre de 96 ou 95. Elle l'écrit juste au moment de la fondation de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, qui est la quatrième institution qui vient compléter le trio infernal FMI, Banque mondiale, ONU. L'Organisation mondiale du commerce, c'est celle qui, en 95, vient rendre commercialisables les biens et les services, le secteur tertiaire, dans lequel on trouve l'éducation et la santé, ce qui nous amène à la dégradation de l'hôpital, de l'université, tout ce qu'on connaît maintenant. Donc ça remonte à 95, la mise en place de l'OMC. Le livre de Vandana Shiva discute cette mise en place de l'OMC. Et à l'époque, il y avait eu une lutte assez importante contre le brevetage du vivant et ce qu'ils avaient appelé les TRIPS en anglais. Donc un accord, c'est toujours sur les accords commerciaux internationaux. Et donc, il s'agissait de pouvoir breveter le vivant. Vandana Shiva nous explique dans ce petit bouquin comment c'est un piège de breveter le vivant. Elle part de la lutte pour les semences. Et tout ça, ça débouche sur la question des OGM. Donc, c'est un petit bouquin vraiment très intéressant qui explique très bien comment les pays du Nord accusent les paysans et les paysannes du Sud de piraterie, tentent de les accuser, tout en déposant des brevets sur le vivant, sur les graines, sur les semences, etc. Et c'est intéressant de voir comment il s'agit d'un processus de vol, en fait. Donc, les entreprises semencières accusent les petites paysannes et petits paysans de vol quand ils utilisent les semences qu'eux-mêmes ont produites. Et en réalité, ce sont des générations entières de paysans et de paysannes, et en fait, dans la plupart des cas, de paysannes, de femmes, qui ont sélectionner très patiemment ces semences. Okay ? Donc ça, c'est une chose, les semences, les OGM. Et ça se relie avec, de manière générale, les manipulations génétiques dans lesquelles on trouve aussi les nouvelles technologies, ce qui s'appelait avant les nouvelles technologies reproductives, qui nous permettent plein de choses, d'avoir des enfants de plein de manières différentes, inhabituelles par rapport à l'hétérosexualité classique, etc. Mais qui néanmoins pose plein de problèmes, notamment d'eugénisme. L'eugénisme étant la volonté de, soi-disant, sélectionner certains types de personnes ou certains types d'animaux ou certains types de plantes, mais en l'occurrence là, des personnes. Alors, dans les années 80 et 90, certaines féministes allemandes ont carrément mis des bombes contre des laboratoires de chimie et de pétrochimie et de pétrochimie-biologie qui menaient ces expériences sur les nouvelles technologies reproductives. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant, dans la filiation de l'écoféminisme, de rappeler ces luttes. Donc il y avait un groupe qui s'appelait Rote Zora, qui faisait des luttes à la fois contre le capitalisme féministe et contre le racisme qu'elle voyait dans les manipulations, des nouvelles technologies reproductives. C'est un groupe qui... c'est un groupe qui a fait des actions armées en ne tuant jamais personne. C'est un groupe qui s'est aussi opposé à l'occupation de l'Allemagne par l'armée états-unienne suite à la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un groupe donc, qui s'est revendiqué très clairement féministe, antiraciste et anticapitaliste. Et aucune de ses membres n'a jamais été non plus découverte ni du coup réprimée.
Oui, ça me fait penser que justement l'un des trajets qui Mariames a participé, mais en tout cas a eu aussi ce genre de avec Claudia von Werloff et puis c'est dans le livre j'en parle aussi, mais en fait l'idée c'est que si je résume, c'est qu'elles vont de la naissance du capitalisme jusqu'au capitalisme de la naissance. C'est ça qu'elle la naissance. C'est un raccourci un peu énorme, mais c'est qu'en fait, si on suit tout leur raisonnement sur l'appropriation du travail de subsistance, mais aussi du travail domestique qui est assez fécond et du travail de la nature, puisque c'est une appropriation du vivant, on en arrive à une redéfinition du patriarcat capitaliste. Si je suis ces fameuses théoriciennes, notamment allemandes, écoféministes allemandes, c'est que donc le projet patriarcal, c'est le projet d'appropriation du pouvoir de fécondité, du vivant. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est en cela. Et donc, elles en arrivent à faire. Bon, je vous épargne le texte, c'est assez complexe, en fait, leur théorisation. Mais à la fin, elles parlent donc de la captation. Donc, évidemment, la question des OGM, la question du clonage ou des éléments comme ça, c'est comment arriver à capter la fécondité du vivant et le reproduire et surtout lui proposer des substituts uniquement marchands. Et ce qui est assez extraordinaire dans ces pensées écoféministes, c'est qu'elles ne sont pas nécessairement anti-monétaires, par exemple. Puisqu'il y a l'idée d'un commerce possible. Elles ont étudié des sociétés indiennes en Amérique latine qui font en quelque sorte commerce, et c'est des commerces qui peuvent être d'ailleurs aux mains des femmes, qui occupent un rôle assez structurant dans ces relations-là. Mais ce n'est pas des substituts marchands. L'argent n'a absolument pas la même signification et ne vise pas à l'accumulation. Et donc, elles s'opposent à ça. Justement, cet autre, c'est même plus du commerce, c'est donc vraiment une marchandisation totale du vivant. Et ça, c'est aussi un point assez important des écoféministes. Sylvia Federici est aussi dans la même lignée.
Et marchandisation et sélection. C'est-à-dire que on comprend bien que la dimension eugéniste du contrôle de la reproduction, c'est pour pouvoir être sûr d'avoir des enfants, par exemple, qui seront de notre même type génétique, et si possible, par exemple, surtout blancs, blonds, aux yeux bleus, comme ci, comme ça, avec telle et telle caractéristique. Donc il y a vraiment aussi cette dimension qui mêle racisme, classisme et sexisme, mais avec une dimension raciste très très forte aussi. Voilà. Et pour boucler la boucle de l'idée, toute une partie des débats sur la surpopulation, ce sont des débats qui prétendent que les gens qui se reproduiraient trop, bien sûr, c'est les gens du Sud, sous-entendu les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, etc. Et c'est un débat qui ne pose jamais le problème de qui, en fait, consomme le plus, qui pollue le plus, et surtout... comment est organisée la production? C'est-à-dire, la question qui n'est jamais posée, c'est il y en a qui prennent trop de parts du gâteau, qui veulent trop de parts du gâteau, qui sont trop nombreux. La question qui n'est jamais posée, c'est la recette du gâteau et la logique du système de production. J'ai dit plusieurs choses à la fois, mais je pense que vous voyez la complexité. Parce que peut-être il faut revenir un tout petit peu sur le fait que dans les années 90, on part dans des choses assez complexes, mais dans les années 90, il y a vraiment eu un couplage du débat entre la conférence de Rio sur la planète et puis les conférences organisées par l'ONU aussi sur les droits des femmes, d'abord sur le droit et ensuite sur les femmes, avec cette espèce d'idée qu'en réalité, l'ONU gentiment aide les femmes à contrôler leur fécondité et ce contrôle de la fécondité des femmes, sous-entendu notamment des femmes du Sud, va permettre de protéger la planète. Parce qu'il y aura moins de ces horribles personnes qui consomment, qui polluent et qui mettent en danger les grands équilibres. Voilà, je suis retournée un petit peu en arrière, mais je pense que c'est important d'avoir cette dimension aussi en tête pour ne pas, céder aux sirènes des voix qui prétendent qu'il y a un problème de surpopulation. Sous-entendu un problème de population excessive dans le Sud.
Oui, par exemple, la démographie, c'est effectivement un sujet qui est au cœur des débats aujourd'hui politiques. et qu'on a un retour du malthusianisme, effectivement, qui est très fort. Quand Françoise Daubonne parle de la grève des ventres, puisque c'était un de ses actes les plus forts dans l'expression de son écoféminisme, elle a déjà en tête, en 1974, le concept d'empreinte carbone différenciée entre un enfant occidental et un enfant des pays en développement. Donc c'est ce qui est déjà assez visionnaire. Aujourd'hui, on sait que effectivement l'enjeu démographique des pays qui n'ont pas d'empreinte carbone, puisqu'on sait qu'elle est très concentrée, l'empreinte carbone et la destruction et la dégradation de la planète est très concentrée sur les populations les plus riches du monde. J'ai plus les pourcentages en tête, mais enfin c'est très très fort. Donc on sait très bien que une politique de maîtrise de la démographie dans les pays où il y a le plus de naissances n'est pas forcément n'est pas un levier efficace pour l'urgence climatique. Pour autant, c'est vrai qu'à un moment donné, quand dans les années 70, Françoise Daubonne, c'est quand même quelqu'un qui a eu plusieurs grossesses subies. Et on sait que la majorité des sociétés dans le monde sont patriarcales et que le fait de pouvoir avoir la maîtrise de son corps et le choix du moment où on est mère, le choix d'être mère d'une part et le choix de l'être quand on veut et le nombre de fois qu'on veut, et c'est quelque chose qui est très marquant dans la pensée de Françoise Daubonne et dans le féminisme des années 70 évidemment, et c'est vrai qu'elle fait le lien avec ça, qu'en fait elle dit la première émancipation c'est celle-là, et c'est celle-là pour laquelle il faut se battre. Et c'est vrai que aujourd'hui on n'a pas entendu à la COP26 cet enjeu-là. La démographie, c'est un enjeu, mais c'est un enjeu aussi d'émancipation des femmes à l'échelle mondiale. Et on voit un retour en force très fort aujourd'hui pour l'avortement dans des pays européens. Alors, le Sénégal vient de légaliser l'avortement, mais en Pologne et aux États-Unis, il est en recul, il est menacé et il est en danger. Donc, et commence à y avoir des décès de femmes en Pologne parce que. Donc voilà, donc je voulais juste dire que c'est quand même un sujet d'émancipation et au cœur de l'écoféminisme très important.
Juste pour préciser, il ne s'agit pas d'imaginer que les écoféministes seraient anti, enfin en tout cas seraient anti-avortement, ce n'est pas du tout ça l'idée. Hein. J'espère qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, elles ont absolument accompagné toutes ces luttes. C'est juste qu'elles mettent toujours en perspective le point de vue occidentalo-centré dans une cellule familiale nucléaire, voilà, avec d'autres. Et c'est la même chose par exemple pour la Wages for Housework par exemple de Sylvia Fede, enfin de ce mouvement là qui était pour un salaire qui aujourd'hui pourrait passer comme un salaire maternel mettant les femmes assignant les femmes au foyer. C'est juste que chaque fois dans leur raisonnement elles incluent d'autres types d'organisations familiales dont elles savent par ailleurs que si on a en ligne de compte d'autres dominations, qui sont notamment la domination à travers l'impossibilité par le travail de maîtriser ses moyens d'existence, il se trouve que, par exemple, pour certaines femmes, avoir à disposition leurs propres moyens d'existence, que ce soit par des ressources en nature ou alors ce type de salaire, c'est extrêmement important et ça passe pas nécessairement par l'acquisition d'une carrière qui nous alignerait sur les standards masculins capitalistes. Voilà. Donc elles sont toujours en train de modérer en quelque sorte des élans unilatéraux vers un seul type d'émancipation féministe.
Pour prolonger ce que tu dis. C'est vrai que quelque chose qui peut étonner quand on découvre l'écoféminisme en ayant eu des lectures féministes tout court, ce qui était mon cas quand j'ai découvert l'écoféminisme, enfin moi j'avais lu Beauvoir, j'avais lu Butler, Donna Haraway, etc. Donc j'avais plutôt une culture féministe qui m'avait donné une certaine vision de l'émancipation des femmes. Vision qui venait aussi, au-delà de ses lectures, de ce que je savais par ma mère des combats féministes qu'elle avait pu mener dans les années 70, etc. Et donc, dans mon idée, et c'est souvent une idée assez répandue, l'enjeu du féminisme et l'émancipation des femmes, c'était l'accès au marché du travail, se débarrasser des tâches domestiques, être assignée au foyer, au maternage, à l'éducation des enfants, etc. Et quand on découvre l'écoféminisme en venant de ce féminisme-là, c'est un choc et c'est très étonnant. Et justement, comme tu le dis, parce qu'il y a une interrogation constante sur les conditions de possibilité de l'émancipation. Et c'est ça qui amène les écoféministes, d'ailleurs, à dire que, en fait, si on va jusqu'au bout d'un féminisme cohérent, on a forcément un féminisme anticapitaliste et écologiste. Puisque l'idée, c'est que si je pense l'émancipation des femmes comme ne pas être aliénée par le travail domestique et accéder au marché du travail et pouvoir travailler comme un homme, etc. Bah, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que j'emploie une nounou pour mes enfants. J'ai souvent en plus une nounou que je vais prendre dans une catégorie sociale précaire, racisée, etc. Je prends une femme de ménage pour s'occuper du ménage dans ma maison. Je vais pas cuisiner, donc en fait, du coup, ça va faire travailler des ouvriers et des ouvrières dans l'industrie agroalimentaire. Je vais pas coudre ou tricoter, donc en fait, il y a des ouvrières du textile en Chine, au Bangladesh, qui vont travailler pour faire mes vêtements. Et donc, en termes de solidarité internationale des femmes et de solidarité des femmes à travers toutes les classes sociales, j'ai tout raté. Et donc, leur idée, c'est que justement, on doit être bien conscient. Alors, elles veulent pas dire par là qu'il faut retourner à ces tâches-là. Mais par exemple, ce qu'elle dit, c'est en fait, il n'y a pas que une femme ou une machine à laver ou une femme sous-payée qui peut faire le ménage ou s'occuper d'enfants, etc. Un homme aussi peut le faire. Donc ça pose complètement la question du partage des tâches en visibilisant les conditions de possibilité d'une certaine conception de l'émancipation. Ça fait comprendre à quel point la redistribution et le partage de toutes les tâches et de toutes les tâches qui en fait sont nécessaires, qui sont peut-être chiantes ou peut-être pas, mais en tout cas qui sont nécessaires parce qu'on est des animaux qui ont des besoins, qui ont besoin de manger, qui ont besoin de se vêtir, qui ont besoin de rendre leur environnement propre, etc. Si on pense l'émancipation comme s'arracher à ces tâches-là et à s'en débarrasser, en fait, on camoufle quelque chose qui fait que ces tâches, en fait, elles continuent à exister. Mais elles sont juste refilées à des personnes plus précaires, sous-payées, etc. Et donc ça amène complètement à remettre en question totalement la division du travail, la division sexuelle du travail, la division sociale et la division internationale du travail. Et ça, c'est une des raisons des articulations qu'on trouve dans l'écoféminisme. C'est pas quelque chose d'artificiel de relier féminisme et anticapitalisme ou féminisme et écologie. Il y a l'idée que voilà, si dans le féminisme on inscrit d'emblée cette idée de une solidarité de toutes les femmes, à ce moment-là, ça amène forcément à remettre en question l'image de l'émancipation du féminisme libéral ou du féminisme bourgeois, qui est pourtant celle qui continue à être majoritairement véhiculée.
Alors, moi, je rajoute un petit truc à ça, parce qu'il y a quand même là-dedans le gros impensé de l'hétérosexualité. Donc, je m'exprime en tant que lesbienne féministe. Parce que les enfants, c'est pas juste mes enfants, c'est les enfants de mon mari aussi, ou de plusieurs hommes, ou en tout cas, disons, les hommes sont quand même concernés par la question des enfants, premièrement. C'est pas juste que j'emploie quelqu'un pour s'occuper de mes enfants, c'est genre, mon mari et moi employons quelqu'un pour s'occuper des enfants de mon mari et moi, ou des enfants de mon mari. Enfin, quand même, cet élément est important. Et une autre chose que je rajouterais, c'est quand même la dimension collective de tout ça. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que ce soit pas juste moi ou juste mon compagnon, mon mari, l'homme, le machin, ou juste une femme du Sud. Normalement, il y a une période dans laquelle, c'est pas que je sois en faveur de l'État, mais l'organisation collective, les services publics, ça existe aussi. Donc, c'est intéressant de voir comment, dans le cadre néolibéral qui a amené à la privatisation radicale ou à la commercialisation de ces services, toute cette discussion doit avoir lieu. Ça, c'est un élément. Donc, vraiment insister sur d'autres types de possibilités d'organiser le travail, pas seulement dans la cellule familiale, premièrement. Et deuxièmement, je voudrais rappeler quand même aussi, pour voir les choses sous un autre angle, certes, individuellement, nous consommons, nous polluons, etc. Mais est-ce que vous savez quelle est la structure, l'organisme, l'institution qui consomme le plus d'énergie, de matières premières et qui pollue le plus ? Pourriez-vous, devinette, voilà, à votre avis, le plus gros pollueur sur Terre ? L'armée, oui, c'est l'armée. Et l'armée, donc, est parmi ces armées, et c'est des armées nationales, hein, donc je pense que vous imaginez un peu lesquelles, mais on peut quand même les nommer. Donc, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a Israël, il y a la Russie, ça fait partie des gros, donc qui consomment les ressources et qui, après, polluent. Alors, il y a plein de manières, et là, je vous renvoie au travail de André Michel, notamment, donc une féministe tout à fait pionnière qui a fêté tout récemment ses 101 ans, et qui a écrit de manière très intéressante justement sur le nucléaire et sur l'antimilitarisme. Et donc il y a plein de niveaux de pollution, mais par exemple, le 14 juillet, quand les avions passent sous l'Arc de Triomphe, la consommation de kérosène, c'est un truc de fou, quoi. Toutes les communications électroniques, sécurisées, hyper novatrices, etc., ça consomme une énergie électrique de malade. Tous les exercices, je parle en temps de paix, hein, tous les exercices, les terres sur lesquelles les chars roulent, qui sont complètement écrasés, tout ça, c'est de la pollution. Et évidemment, quand il y a des guerres, et alors quand il y a des guerres en plus avec de l'uranium appauvri ou de l'uranium tout court, vous imaginez le degré de pollution que ça fait. Et donc, c'est quand même important de rappeler ça, notamment en France, sachant que la France est le troisième ou le deuxième producteur et exportateur d'armes au monde. Donc, je pense que là aussi, voilà, c'est bien le geste, éteindre la lumière, etc., ne pas employer ceci, cela. Mais je pense que c'est aussi une dimension importante à avoir en tête quand on pense à la défense de l'environnement, de la nature, et y compris des femmes du Sud, puisque André Michel montre très, très bien comment tout ça, ça se fait au détriment des populations colonisées et notamment des femmes des pays colonisés et plus particulièrement encore des paysannes et des femmes rurales et des minorités ethniques des pays du Sud.
Et justement, là, pour revenir sur la question de la guerre contre la subsistance, qui a vraiment un poids très, très important, comme Dana Shiva a mis en évidence, mais beaucoup d'autres écoféministes, c'est qu'en fait, il y a l'idée que... À partir du moment où on délègue à d'autres le soin de nous vêtir, de nous nourrir, de nous transporter, enfin tous les éléments de cette vie quotidienne, se pose une vraie question. C'est si le principe de délégation lointain, est-ce que ça permet, une fois qu'on l'a perdu de vue, de s'en soucier? C'est une question à la fois phénoménologique, sensible, mais aussi politique. Et donc, ce que disent les écoféministes, mais sans être essentialistes, c'est se dire, en fait, quand on regarde les personnes dans le monde social qui s'en souviennent et qui s'en soucient et qui peuvent pas l'oublier, parce qu'à un moment donné, l'eau, faut qu'elle soit à peu près potable. S'il y a plus de bois pour mettre dans la cheminée, le petit glanage dans plein de pays du monde, c'est les femmes qui le font avec des enfants. Et ben là, y a plus. Et qui donc va être les premières victimes des conflits militaires, des grands déplacements de population, évidemment, de ce qui va se passer avec, de ce qui se passe déjà avec le réchauffement climatique et les mouvements de population, etc. Et ben c'est les femmes en fait qui se retrouvent en première, enfin les femmes ou les personnes assignées tout simplement à cette fonction qui est de faire en sorte qu'il y ait de la subsistance tous les jours à peu près possible. Et donc, ce qui veut donc, ce qui connecte donc directement l'activité militaire de destruction, non pas simplement des populations ou même des maisons, mais tout simplement d'un environnement nourricier. C'est-à-dire que ce qui est détruit dans une guerre, ce qui est souillé, ce qui est ravagé, en fait, c'est enfin une saison de récolte dans une société paysanne, ben en fait c'est l'exode rural, hein. Il n'y a pas le choix. Et donc en fait, il faut quand il y a une dégradation, enfin comment dire, une souillure nucléaire gravissime, ben juste on peut plus bouffer, on s'en va, on quitte le territoire. Et donc en fait, rendre inhabitables les lieux, rendre inhabitables les corps, parce que là encore une fois, on peut, enfin, je veux dire, il y a des voilà, il y a la question aussi de des enfants qui sont les premières victimes, des fœtus aussi, et donc ça, c'est vraiment une technique capitaliste d'installation massive de son modèle. C'est-à-dire, c'est une et là, ce que vont pointer les écoféministes, qu'a montré évidemment Françoise Daubonne de façon, enfin, je veux dire, radicale et immédiate, et ce que vont montrer les écoféministes ensuite, c'est que tant qu'on n'a pas compris que le capitalisme faisait la guerre, de basse intensité, de haute intensité. On pouvait pas imaginer même avoir un féminisme qui prenne la main ou les avantages collatéraux en fait de ce libéralisme-là, parce qu'en fait c'était tout simplement participer à une entreprise de destruction. Voilà, c'est pas très optimiste.
La parole est à vous aussi.
Je voulais rebondir sur ce que vous étiez en train de dire, c'est que du coup, autour de cette idée d'économie de subsistance, l'écoféminisme, c'est un levier politique puissant pour penser notre organisation sociale de demain. On peut l'illustrer par des exemples très concrets. Là, on a parlé de se vêtir. On peut parler, par exemple, de l'alimentation. Là, je viens de voir un très bon film qui vient de sortir, qui s'appelle « Empathie ». C'est les tribulations d'un carnivore qui va étudier de plus près la question de la souffrance animale et qui va du coup changer ses habitudes alimentaires. Mais la question de l'alimentation, par exemple, elle est au cœur de l'enjeu de transformation sociale aujourd'hui. Et on voit que l'écoféminisme nous permet de regarder autrement notre organisation sociale. Je prends l'exemple de l'école. Avant, on avait des cours d'EMT où moi, j'ai appris à faire la tarte au citron. Et puis après, je suis passée au collège et l'EMT s'est transformé en cours de technologie. Et j'ai appris à souder, à faire des soudages et à faire des trucs plus technologiques. Et après, ça a basculé sur l'informatique. Et par exemple, tout ce qui est compétences autour de la subsistance, se faire à manger, lire une étiquette dans un supermarché, acheter à manger, acheter des produits, se faire à manger, ben ça a disparu, par exemple. Et aujourd'hui, on voit émerger des associations. À Paris, il y en a une qui s'appelle l'École Comestible. Et elle se bat, elle fait des projets avec les écoles aujourd'hui pour réapprendre et redonner aux enfants et apprendre à tous les enfants le plaisir de faire à manger, préparer à manger, le plaisir de répondre à ses besoins primaires premiers. Voilà. Et c'est pour ça que c'est vrai que l'écoféminisme, c'est une lunette. C'est comme tu disais, Jeanne, c'est des lunettes. Et ça nous permet de regarder notre organisation sociale, de garder ce qu'il y a de bon, parce qu'il y a des choses de bonnes, mais aussi de transformer, de renverser, de penser autrement les choses telles qu'elles sont organisées.
Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de dire des choses, poser des questions, faire des remarques. Ne soyez pas timide, même si on sait qu'en tant que femme, c'est souvent difficile de s'exprimer dans des grands groupes comme ça, avec des micros, tout ça. Mais
ouais, je sais pas. Enfin, ça revient un petit peu en arrière dans la conversation, mais sur du coup tout le sujet de la PMA, il y a eu quand même quelque chose de posé de. À quel point ça instrumentalise la procréation, la fertilité au service du capitalisme et du marché. Mais est-ce que du coup c'est pas aussi le point de tension qu'il y a entre l'écoféminisme et le féminisme cinquième ou sixième génération, enfin, qui du coup est très, très connecté à la lutte trans, et c'est aussi un sujet hyper important, mais j'ai l'impression que du coup c'est un point de tension qui est très difficile à dénouer. Parce que les urgences sont pas du tout les mêmes, puisque les personnes trans ont une urgence quand même de reconnaissance et d'égalité, et les écoféministes ont une urgence de prise en compte de la dégénérescence du marché en quelque sorte et du capitalisme. Voilà. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime hyper bien, si vous pouvez.
Oui, je pense que je vais juste répondre. C'est là aussi, c'est ce que proposent les écoféministes, c'est des points de vigilance et ce n'est pas une préconisation anti-tech, retour à la fécondité naturelle, si ce mot-là est même possible et peut même exister. C'est une conception très particulière de la nature. Moi, c'est pas du tout dans ce sens-là que je le prends. Par contre, ce qu'elle juste met en évidence, c'est qu'est-ce qui se passe dans des pays du Sud où tout simplement il y a des violences obstétricales de folie parce qu'on peut plus accoucher physiologiquement et qu'il y a forcément un acte chirurgical qui passe par la césarienne, typiquement. C'est comment on marchandise complètement l'accouchement, qui est un marché, hein. C'est un marché, hein. C'est tellement plus simple d'en faire un acte chirurgical plutôt que l'accouchement par voie basse. C'est typiquement ce genre de réflexion, c'est-à-dire. Et donc moi j'ai une sorte de cadrage qui serait le suivant. Enfin, c'est est-ce qu'on parle d'une techno optionnalité? Et là, je pense que c'est différent. Plutôt que de sortir du débat tech anti-tech ou d'une techno priorité voire monopole. Et moi, je pense que là, il faut pas négliger absolument et juste être conscient que le capitalisme vise le monopole. Ça, j'en ai aucun doute. Le monopole des semences. Et donc voilà, c'est tout. Il me semble que c'est une façon de répondre.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est, en tant que lesbienne, par exemple, je n'ai pas envie d'être instrumentalisée par des entreprises capitalistes qui, soi-disant, pour me permettre d'avoir les enfants que peut-être je veux ou peut-être je ne veux pas, mais qui est une justification pour faire des recherches sur le génome qui, en fait, sont des recherches destinées à gagner de l'argent et éventuellement à produire des êtres tous blancs, tous blonds, etc. Donc ça, c'est la dimension qui, personnellement, c'est pas de la technophobie, c'est une réflexion sur comment ne pas laisser manipuler certaines causes qui nous sont chères par des entreprises transnationales ou des très gros intérêts qui en fait mettent en avant des choses qui sont complètement accessoires à leur véritable propos. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important là-dedans. Et après, le désastre environnemental va concerner tout le monde, hein, indépendamment de nos choix sexuels, de notre, enfin, tout le monde, tous les êtres vivants sont concernés, mais évidemment, en effet, pas de la même manière. Et donc, les gens du Sud en premier, souvent, les gens de la campagne en premier, enfin, voilà, là, je pense, c'est donc les trans du monde rural avant les trans du monde urbain. Et je ne sais pas comment dire, mais je pense qu'il ne faut pas réfléchir en termes de priorité. Ce n'est pas tellement ça la question. Mais par contre, il faut réfléchir à comment, encore une fois, je m'excuse de me répéter, mais comment ne pas servir à justifier des discours pro-technologiques ou des recherches qui, en fait, sont des recherches, des types de recherches particulièrement problématiques, à la fois d'un point de vue féministe, antiraciste, et aussi d'un point de vue capitaliste, en fait. J'espère que j'ai été à peu près claire.
Oui, enfin, ça va juste rebondir sur ce que vous avez dit, mais c'est vrai que c'est souvent un point de friction entre l'écoféminisme, ou en tout cas ce qui est généralement compris de l'écoféminisme, et la sphère militante LGBT. Alors qu'en réalité, en fait, bon, déjà, moi, quelque chose que je pense important de souligner, c'est que il n'y a pas une doctrine écoféministe. C'est pas un mouvement qui est prescriptif. Quand les analyses écoféministes, elles visent effectivement à mettre des points de vigilance, mais voilà, il n'y a pas du tout l'idée de dire ce qui est bien ou mal, ou ce qu'il faut faire ou pas. Justement, il y a une sorte de tentative pour dépasser ces manières de penser binaires de il faut pas, c'est bien, c'est mal, etc. Je crois que c'est important aussi de comprendre qu'en fait, on est tous pris dans des contradictions. Que par exemple, si je suis à la fois désireux ou désireuse d'entrer dans une procédure de procréation médicalement assistée et, par exemple, même que j'ai besoin de faire appel à quelqu'un pour de la, de la GPA, peut-être ça peut entrer en contradiction avec des convictions que j'ai par ailleurs sur les conditions dans lesquelles ce service est proposé dans le cadre de l'économie capitaliste. Et en fait, personne n'est capable de résoudre ces contradictions-là. C'est le tissu du réel, la contradiction. Et du coup, je crois que c'est super important, en fait, dans ces débats, de ne pas tomber dans des conflits entre des sphères militantes qui peuvent s'entendre et qui peuvent s'allier sous prétexte de concours de purisme ou de concours de cohérence idéologique. Et donc, par exemple, dans les textes, c'est vrai que dans Écoféminisme de Mariamis et Vandana Shiva, il y a une alternance de chapitres écrits par Mariamis et par Vandana Shiva. Et c'est vrai que les chapitres de Mariamis, il y en a beaucoup, beaucoup qui tournent autour de la question des technologies reproductives. Et certains qui défendent une position qui est assez critique vis-à-vis des technologies reproductives. Mais ce n'est jamais une critique au nom d'un certain idéal de la nature ou de ce qui serait naturel. Ça, c'est un contresens qu'on fait souvent sur l'écoféminisme et qui est vraiment un contresens pour le coup. Les écoféministes, elles opposent jamais ce qui serait naturel et culturel ou naturel et artificiel, naturel et technologique. Elles appellent sans cesse à dépasser cette binarité-là. Donc elles vont jamais dire, par exemple, la PMA c'est mal parce que c'est pas naturel, ou la GPA c'est mal parce que c'est pas naturel. C'est vraiment pas ça leur ligne argumentative. Elles se méfient au contraire de ce truc un peu éco-fasciste, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais qui dualiserait la question et qui idéaliserait une pseudo-image du naturel. Donc l'argument, c'est pas de dire ça, c'est plutôt de dire tel que ça existe. C'est notamment la perspective du Sud, en fait, qui amène à voir ça. Enfin, moi, quand pour mon premier bouquin, j'ai passé plusieurs mois en Inde auprès d'ONG féministes, écoféministes. Et en fait, cette question de la GPA, ça revenait tout le temps dans la bouche des militantes indiennes qui m'expliquaient qu'il y avait beaucoup de femmes indiennes qui, un peu par nécessité, étaient mères porteuses et que ça posait toutes sortes de problèmes. Enfin, que voilà, il y avait une instrumentalisation de femmes qui n'avaient pas vraiment d'autre choix pour gagner leur vie, que c'était dans des catégories sociales défavorisées, etc. Donc, on peut. Voilà, la question n'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, mais juste de pointer que dans un système qui est fondé sur des inégalités, ça pose des problèmes et que c'est fait dans une structure du réel qui est classiste et sexiste et raciste ou colonialiste. Mais après, en fait, n'importe quel de nos choix. Enfin, là, tout à l'heure, par exemple, je parlais de coudre ou je sais pas quoi. Bon, moi, je sais pas coudre. Donc, alors, j'achète que des trucs d'occasion, gna 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 gna. Mais en fait, on est tous dans des contradictions. De la même façon, à un moment, j'ai cru que pour être une vraie écoféministe, il fallait absolument vivre en autonomie et faire son eau, faire son bois. J'ai essayé, ça m'emmerde. Je préfère être au lycée avec mes étudiants, mes élèves. Et voilà, je veux bien cuisiner un peu et faire des tâches de subsistance un peu, mais en fait, c'est important aussi la division du travail. Donc, il y a ces complexités ou ces contradictions avec lesquelles il me semble qu'il faut être vraiment honnête et lucide et pas s'imaginer qu'on peut faire 100% bien ou je sais pas quoi. Ça, c'est une espèce d'idéal absolutiste et totalitaire qui me paraît très dangereux et qui fait qu'on se déchire entre gens qui, en fait, sont politiquement assez proches. Et voilà.
Voilà, moi, je suis pas complètement d'accord. Ayant travaillé sur des populations radicales. Non, je parle pas de la GPL. C'était au sens où, peut-être pour revenir là, parce qu'on commence à parler de ce que c'est qu'une politique écoféministe. Donc, on arrive au terme du débat sur un sujet important. Non, c'est juste pour revenir sur la question du capitalisme et l'éradication des savoirs vernaculaires. Et ce que pointe Françoise Daubonne, notamment, qui est hyper intéressant, c'est qu'elle montre comment les savoirs, et puis bon, il y a pas qu'elle, c'est toute une époque aussi de retour à la terre, comme on dit, où on éradique, c'est-à-dire la capacité qu'a le capitalisme de capter les savoirs vernaculaires, de les piller, de les transformer, de leur donner des substituts chimiques, technologiques, marchands, et ensuite de faire des chasses aux sorcières, on revient au titre de cette tribune, pour éradiquer ces vieilles bonnes femmes et ces vieux bons hommes qui, eux, ont des savoir-faire. Ce que je veux dire par là, c'est... Non, c'est ce que... Non, je sais bien que c'est pas, non, c'est pas du tout dit ça. Non, c'est pas du tout là que la critique se, là, on est complètement. Donc, c'est pour dire que chaque fois, pour revenir aux technologies reproductives qui utilisent un point, c'est que leur angoisse, c'est là, non pas que ce soit pas une opportunité extraordinaire. C'est vraiment, c'est extraordinaire de pouvoir avoir des technologies reproductives. C'est pas ça qui est le problème. C'est si ça devient l'unique option offerte comme marché mondial. Et franchement, quand je vois la chasse aux sorcières qui est faite avec les sages-femmes physiologiques à l'échelle planétaire, je peux vous dire que c'est une vraie crainte. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est un autre sujet. Et donc, c'est juste ces points-là qu'elles radicalisent. Elles ont toujours, j'ai parfois l'impression, 50 ans de réflexion parce qu'elles ont vu des choses déjà éradiquées. Marie Amiès, n'oublions pas, elle est fille de paysan. Famille de 9 enfants, enfin, je veux dire, c'est vraiment une fille de ferme au départ, qui est devenue sociologue en allant en Inde. Enfin, c'est tout un truc complètement fou dans sa trajectoire. Et donc, pour revenir après à la question de qu'est-ce qu'une politique écoféministe, effectivement, c'est extrêmement, extrêmement rude parce que qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment être solidaire avec des femmes du Sud? Est-ce qu'on doit réinventer des sociétés paysannes dans des sociétés dépeuplées? Comment réinventer? Et donc là, je pense que y a, en tout cas, l'un des gros points communs de ces écoféministes, c'est effectivement qu'elles sont anarchistes. Ça, je pense qu'il y a, enfin, il y a des socialistes, hein, des éco-socialistes aussi très fortes, mais moi, en tout cas, celles qui m'ont intéressée sont anarchistes et ont vraiment essayé de voir, non pas comment moi, individuellement, ou même dans mon quartier, je pourrais intégrer des tâches de subsistance, mais comment vraiment créer des contre-sociétés. Toujours en s'inspirant effectivement de modèles tribaux, de modèles paysans, qui fait que justement c'est contre une métropolisation ou contre une logique étatique, non pas seulement parce que l'État serait complètement c'est juste que qu'est-ce que je fais maintenant immédiatement, et là il faut vraiment les resituer dans la contre-culture des années 70 avec un retour à la terre qu'elles ont pris très au sérieux. Et je pense que c'est leur grosse différence de mon point de vue avec un féministe qui va devenir ensuite un féminisme d'État qui va aller du côté des lois et qu'elles soutiennent aussi, hein. Je veux dire, elles sont dans des grandes organisations internationales, mondiales aussi, les unes et les autres. Mais elles, je dirais qu'elles vont, rester vraiment dans cette idée ici, de l'action directe ici et maintenant, en se passant autant que possible du rouage de l'État, puisque l'État est vendu aux multinationales. Et ça, elles vont le dire jusqu'au bout. Et donc, elles ont une idée quasi pragmatique, c'est-à-dire qu'elles renversent complètement les utopies. C'est-à-dire, non pas... la lutte au niveau de l'État, c'est extrêmement important. On va déléguer des féministes pour le faire. Mais moi, maintenant, qu'est-ce que je peux faire collectivement? Et donc là, d'un point de vue quasi pragmatique et réaliste, je vais essayer de m'organiser avec des groupes anarchistes, faire des contre-sociétés à des échelles assez conséquentes, des communautés. Et là, elles vont être assez actives aussi sur ce terrain-là. Et je pense que, aussi étrange que ça puisse sembler, elles font vraiment de ce que nous, on appelle une utopie, une réponse hyper réaliste aux capacités d'agir, quoi. Enfin, que nous laisse l'État capitaliste. Mais bon.
Je crois qu'on est arrivé sur la partie des alternatives et des luttes. C'était le programme, c'était ce qu'on avait prévu. Peut-être vous avez des remarques, des questions, des doutes, voilà, allez-y, c'est à vous.
Pierre, je voudrais réagir. À plusieurs reprises, vous avez parlé des pays du Sud. Bon, donc apparemment, c'est effectivement, et vous dites, vous le classez, c'est eux, bon, les contradictions Nord-Sud, bon, il y a les contradictions de genre, il y a les contradictions, etc. Sur la question Nord-Sud, sur la question des pays du Sud, moi, je voudrais faire une petite remarque. C'est que je suis tout à fait d'accord avec vous que cette contradiction, elle peut se lire tout bêtement au niveau des revenus dans les pays du Sud, dans les pays du Nord. Dans le pays du Nord, sont 10 fois, 15 fois, 20 fois plus forts que dans les pays du Sud. Mais ça peut se voir aussi dans les chiffres des émissions de gaz à effet de serre. Dans les pays du Nord, ils émettent 10 fois, 20 fois plus que dans les pays du Sud. Mais deuxième remarque, c'est que il y a quand même une chose, c'est que ces pays du Sud, ils sont aussi chez nous. Parce que, bon, je dois dire que j'habite dans un quartier en banlieue, qui est un quartier dont la grande partie est quartier prioritaire, c'est-à-dire pauvre. Et ben c'est on voit tout de suite que la population, ce sont des populations du Sud. Quand on va dans le métro, dans le RER, on voit tout de suite la population du Sud. Là. Ah ben non, mais c'est des remarques pour dire que les pays du Sud, ils sont pas loin, ils sont aussi chez nous.
Alors, le Sud et le Nord, ce sont des notions qui ne sont pas nécessairement géographiques. Il y a des Nords dans les Suds, des Suds dans les Nords, et il y a le racisme qui traverse les sociétés occidentales. Il y a la question migratoire, il y a toutes ces questions-là. Je crois qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler aussi.
Rebonjour. Alors, justement, merci pour votre intervention, parce que c'est quelque chose qui m'a fait tiquer à plusieurs reprises. Vous avez été trois ce soir. Trois, justement, mentionner les pays du Sud, qui, à mon sens, est une notion très capitaliste, puisqu'on classe le Nord et le Sud en fonction de contexte économique. Ce qui m'amène à m'interroger sur la puissance des mots, la puissance des fictions, la puissance du récit, de ce qu'on va décrire. Vous avez parlé de personnes racisées également. Je trouve que, du coup, on est encore dans des logiques qu'on cherche à combattre. Quand j'entends parler d'écoféministes, moi, je suis venu vraiment pour découvrir, pour apprendre, pour comprendre. Donc, j'ai pas toutes vos lectures, mais je m'interroge sur à quel point est-ce qu'on a envie de changer ce vocabulaire pour pouvoir inclure des gens dans ces luttes-là qui sont des luttes anti-oppression. Vous avez parlé de racisme. Vous avez parlé de vivant. Et dans écoféminisme, j'entends ni race, j'entends ni vivant, j'entends écologie. Enfin, écologie, donc à la limite vivant, pourquoi pas. Mais je suis quand même assez, si je dois être honnête, un peu, pas choqué, mais ça me touche quand même. Quand je vous entends parler des gens du Sud, quand je vous entends parler des pays du Sud, ça me fait quelque chose. Je me sens à peine concerné, en fait, par tout ça. Et je trouve que c'est des logiques qui vont à l'encontre des propos que vous avez tenus toute la soirée, en fait. Je trouve pas ça rassembleur, je trouve ça très, très capitaliste. Voilà, je souhaitais juste vous le dire.
Mais juste pour bien comprendre, du coup, vous pensez qu'il faudrait s'exprimer de quelle manière ?
Bah, la question que je pourrais poser, c'est à quel point est-ce que le vocabulaire, le changement de vocabulaire est important dans les luttes que vous êtes en train de mener ? Vous êtes toutes les trois autrices. Donc, à quel point est-ce qu'il faut changer ces mots-là ? Alors, je ne sais pas, peut-être que pour parler des pays du Sud, il faut parler des pays d'ailleurs, je ne sais pas, d'ici et de là, ça dépend des phrases qui sont tournées. Mais les pays du Sud, ça me fait vraiment penser à la fracture Nord-Sud au sens économique du terme. Donc on est encore dans un rapport très capitaliste, je trouve, me dérange.
Juste, je trouve que les écoféministes allemandes ont trouvé un super terme, moi, qui m'a beaucoup plu, qui est le terme de subsistance. Alors du coup, elles parlent de pays où la subsistance, ou de lieu, ou de classe, enfin en tout cas de situation sociale où la subsistance se trouve au centre de l'organisation sociale. Et du coup, moi, ça m'a conduit à dire, faut pas parler de pays péricapitalistes, pré-capitalistes ou proto, je sais pas, mais des pays du coup qui sont anti-subsistance. On peut aussi renverser complètement le vocabulaire en parlant même plus de capitalisme, en disant c'est juste anti-subsistance ou c'est post-subsistance. Enfin voilà, et c'est vraiment, elles ont été plusieurs, et Fardala Shiva aussi a participé à cette réflexion. Et je pense que c'est une manière aussi de peut-être d'unir. Enfin moi, c'était aussi un peu l'enjeu du bouquin, c'était d'embarquer aussi bien la bonne femme qui fait du tricot et qui en fait va se retrouver aussi première sur une lutte antinucléaire, sur son pliant, parce qu'on ne tient pas toute la journée un mégaphone et qu'il faut bien aussi, à un moment donné, faire des trucs. Et ça, c'est vraiment une figure des luttes environnementales qui est très, très importante. Donc, des femmes ordinaires. Et donc, du coup, quand on prend le prisme, par exemple, de la subsistance, ça permet d'embarquer beaucoup plus de monde. Et après, il y avait la notion de nord global, sud global. Parce que, en fait, il y a aussi un vocabulaire, faut les resituer. C'est une pensée des années 90, l'écoféminisme. Et juste nous, on découvre ça, des années 1980, 1990. Ça arrive en France, 40 ans plus tard, de toute manière, moi, je continue à penser en termes de nord et de sud, c'est super important, mais ça, on va peut-être pas avoir le débat maintenant. Mais du coup, c'est aussi un vocabulaire. Elle parle même parler de tiers-monde, hein, pour certaines. Enfin, je veux dire, faut juste les lire comme des textes historiques qui nous arrivent beaucoup plus tard et qu'il faut prendre pour des sources, comme des sources d'inspiration. Il me semble qu'il y a quand même beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup changé malgré tout dans leur lecture du monde. Mais c'est aussi une invitation à décloisonner les termes. Et c'est sûr que... Enfin, je vais vous laisser répondre.
Non mais, ok. Enfin, je veux juste une minute. Enfin, cette question du langage, c'est vrai qu'effectivement, du vocabulaire, c'est super important, évidemment. Mais c'est vrai que là, par exemple, vous, ce qui vous a choqué, c'est le terme sud. Dans d'autres contextes, souvent, moi, on me dit, oui, mais vous avez utilisé le terme femme. Donc, en fait, selon les sensibilités personnelles, il y en a qui vont être choqués que j'ai dit le mot nature. Si, par exemple, je m'adresse à des anthropologues de la nature, des écologues qui, du coup, savent que la nature, ça n'existe pas. Nature, c'est un mot pollué. Environnement, c'est un mot pollué. Femme, c'est un mot pollué. Homme, c'est un mot pollué. Nord, c'est un mot pollué. Sud, c'est un mot pollué, etc. Et il y a beaucoup d'écoféminismes qui, justement, se sont dit, bon, en fait, notre problème, c'est qu'on travaille avec un langage qui est complètement lui-même façonné par des structures racistes, sexistes, etc. Mais c'est ça... nos pots de peinture avec lesquels on essaye de peindre quelque chose. À partir de là, que faire ? Et alors, elles ont différentes stratégies. Il y a certaines qui vont inventer des mots. Il y a même une qui a carrément inventé toute une langue, mais du coup, il y a une sorte d'index ou de dictionnaire à la fin de son bouquin, et donc il faut le lire en bilingue, en fait. Certaines disent... Vandana Shiva, elle a contribué, par exemple, à un bouquin qui s'appelle « The Development Dictionary », où elle reprend les termes du langage du développement en disant voilà dans l'espèce de novlangue libérale et tout comment c'est défini, mais en fait nous on va les redéfinir de cette façon-là. C'est aussi un peu la stratégie de Maria Miss de dire en fait je peux pas réinventer tous les mots, il faut aussi utiliser un langage pour communiquer. Et c'est vrai que souvent c'est des mots qui sont les mots des sciences sociales de telle ou telle époque. Mais je vais essayer de les redéfinir, alors ce qu'elle appelle redéfinir from below, redéfinir d'en bas. C'est-à-dire, par exemple, si je prends le mot travail ou le mot famille, au lieu d'en donner la définition explicite ou implicite qui serait celle dans un bouquin écrit par Marx ou je sais pas quoi, qu'est-ce que ça fait si je me demande travail ou famille, ça renvoie à quoi ? Ou communauté, ou voilà, nature, ça renvoie à quoi ? Pour une femme rurale de tel contexte. Donc il y a toute cette recherche linguistique. Alors des fois du coup ça donne des formes très poétiques en fait, d'essayer de tordre le langage pour lui faire dire des choses qu'il réussit pas à dire habituellement. Mais je crois qu'on peut pas incriminer des théoriciennes qui cherchent à créer un langage libérateur d'avoir à disposition que des mots qui en fait sont déjà pollués par des siècles d'usage. Mais c'est sûr que c'est une quête super importante.
Oui. Moi, je voudrais juste... C'est complètement décalé, ce que je vais dire. On s'achemine, là, dans 3 mois, à écouter éventuellement M. Zemmour, qui va être candidat à la présidentielle, qui est un vieux mâle blanc, raciste, capitaliste, ultralibéral, qui obéit à M. Bolloré, qui lui aussi est du même topo et qui en plus a le monopole maintenant de je ne sais combien de systèmes de médias. Et ce monsieur, donc, il va nous déverser des horreurs à longueur de temps. Et moi, j'aimerais bien qu'on entende la parole contre ce gars des écoféministes de manière un petit peu plus énergique. Parce que j'ai 71 ans, ça fait 50 ans que je suis écolo, etc., mes 68 et compagnie, et j'en peux plus. J'en peux plus, tu retournes en arrière, qu'on vit là. Et j'adore, je trouve formidable ce mouvement écoféministe. Et voilà, je voudrais qu'on l'entende.
Je pense que nous aussi, je parle pour les trois, on a un peu moins, mais on en a marre aussi.
Bonsoir, j'avais une petite question... Par rapport, donc, je trouve que l'écoféminisme est très intéressant pour ouvrir des perspectives, des imaginaires sur les choix de société du futur. Et j'aimerais justement avoir une petite lueur par rapport à la notion de décroissance et écoféminisme. Je m'explique. Vous avez beaucoup parlé du capitalisme. Donc moi, je décale un peu. Je parle aussi du productivisme, du consumérisme et de la croissance. Une croissance sur une planète, une croissance qui est infinie sur une planète finie. Le GIEC nous annonce que, ou va nous annoncer que de toute façon, on en a, les accords de Paris sont vains et que de toute façon, à un moment donné, il va falloir réfléchir complètement différemment face à l'urgence écologique totale. Et par ailleurs, les effondrements sont déjà, et je dis les effondrements, il n'y a pas un effondrement, sont déjà plus ou moins en cours, plus ou moins amorcés avec différentes. Vitesse. Sur la biodiversité, il y a un effondrement qui est assez brutal. Et les autres effondrements sont à venir aussi. Donc en fait, du coup, les perspectives et les imaginaires que l'écoféminisme peuvent apporter sur les choix de société de futur peuvent être très intéressants aussi sur cette sortie du croissantisme à tout prix dans notre belle planète qui est, somme toute, finie, et avoir un retour au vivant et un lien avec la notion de terrien à part entière.
Merci pour cette... de pouvoir plus spécifier en fait, ce que peuvent nous apporter les pensées écoféministes sur le plan de la politique urgente. Et là, je repense à Françoise Daubonne qui, un peu avec désespoir en quelque sorte, elle est un peu désolée, elle dit il se trouve quand même que les bonnes femmes, enfin on peut parler de façon un peu triviale, c'est quelqu'un qui a par ailleurs une très très belle plume, ça reste les personnes qui n'ont pas été complètement contaminées par le capitalisme. Parce qu'il y a plein de bonnes femmes, des grands-mères, à des tas de femmes qui se retrouvent dans des métiers assez dévalués et qui ont des savoir-faire de subsistance assez gigantesque. Et opérationnelles tout de suite et des chemins de traverse qu'elles ont l'habitude de prendre parce que de toute manière, il faut qu'elles survivent dans un monde qui n'est pas fait pour elles puisque les carrières, on a beau faire, ce n'est pas fait pour elles. Et donc, elles voient une union objective, immédiate. Alors, elle a parlé de la grève des ventres, des choses comme ça, mais entre les femmes, quelques transclasses en fait, autour de ce savoir-faire assez... mais en disant, je suis désolée que ça tombe sur les femmes, parce que ce qu'elles voudraient, c'est que ce soit les paysans, que ce soit les pays du sud global, que ce soit tous les ouvriers, enfin, toutes les personnes qui sont justement déjà dans une situation de non-accès au miracle de l'abondance capitaliste. Donc, en fait, elle voit une union objective, mais elle dit, si ça pouvait passer par les femmes qui donnent cette impulsion, qui ont une sorte de réalisme pratique auquel on les a condamnées, mais qui peut être une ressource. Donc, en fait, elle transforme le stigmate et l'oppression en fait en ressource, justement. Donc, elle ne va pas appeler ça décroissance, mais limitation, en tout cas. Et à partir de là, on a vraiment une invitation écoféministe d'union, justement, de conversion, en quelque sorte, de ce monde d'hommes qui possèdent les terres, qui possèdent les usines, etc., et qui donc voient à l'échelle, et qui peut donc à l'échelle quotidienne torpiller en fait ce monde. Et donc elle va assez loin, hein. Ça peut aller jusqu'à l'action armée, par ailleurs. Donc elle est révolutionnaire authentiquement, elle a vraiment déposé une bombe pour saccager une centrale nucléaire. Donc elle passe à la. Il y a vraiment un. Et elle envisage donc tout un passage à l'action extrêmement important. Et donc moi, ça me fait connecter à d'autres. À des économistes géographes australiennes qui s'appellent Gibson Graham, qui sont vraiment. Qui forment un tandem assez extraordinaire où elles parlent exactement, sans être écoféministe ni se le dire comme telle, mais de dire comment est-ce qu'on peut unir toutes les portions qui échappent au capitalisme, qui se trouvent en chacun. En chacun d'entre nous et comment on les unit. Et là aussi, le féminisme diffracté et la capacité des femmes peuvent être motrices en tant que... Non, voilà. Donc, je pense que là, il y a par exemple un usage écoféministe basique qui permettrait des actions ordinaires, extraordinaires.
Mais c'est vrai que ça suppose effectivement de faire enfin, d'être dans une forme de pas de côté ou de résistance. Et que... Enfin, par exemple, voilà. Donc moi, j'enseigne au lycée. Je vois actuellement le rouleau compresseur de réformes et de grignotage de trucs qui sont mis en place. Ça rend pas très optimiste sur la façon dont les gens qui dirigent le monde et les institutions perçoivent les orientations à suivre pour l'avenir. Par exemple, il y a une invasion des écrans et du numérique dans les écoles. Les gamins, à la fois, leurs parents leur disent « passe pas la journée devant les écrans » et à la fois, l'institution leur fournit gracieusement des tablettes numériques à tous. Il n'y a plus de manuel papier. Donc, on a 35 gamins en face de... Enfin, moi, je leur interdis d'utiliser des tablettes, mais je ne sais pas jusqu'à quand, en fait, je pourrais résister, quoi. Mais on a 35 gamins en face de soi avec des tablettes numériques connectées au Wi-Fi parce que la couverture Wi-Fi des établissements a été étendue parce que c'est le progrès. Et on est censé supposer qu'ils écoutent notre cours. Les bulletins numériques, les machins, les copies numérisées du bac. En juin dernier, il y a eu une mobilisation de profs de philo de l'académie d'Aix-Marseille, où je travaille. On a formé un collectif et on a refusé de corriger les copies numérisées du bac. Donc on a tenu bon, on n'a rien obtenu du tout, à part des retraits sur salaire, des affectations pourries, etc., et 2-3 articles. Mais en fait, on s'aperçoit que dans ce contexte-là, le moindre truc de bon sens demande une résistance de fou. Pareil, pour là, il y a une suppression du bac. Donc, de plus en plus, tout est en contrôle continu. Donc, contrôle continu, ça veut dire que les élèves sont évalués en permanence. Et je ne sais pas si vous imaginez l'état de stress dans lequel ça les met et ça met les familles. Ils se sentent donc en compétition permanente sur le moindre devoir, non seulement les uns avec les autres au sein de la classe, donc compétition individuelle où il faut vérifier que tu as quand même mieux réussi que les autres, tu as bien réussi à les écraser, mais maintenant c'est aussi, ils savent qu'ils sont en compétition tout le temps avec tous les autres élèves du lycée et tous les autres lycées de la ville et tous les autres villes de France, parce qu'il y a des intelligences artificielles qui réussissent à parasiter les façons dont les profs de REP+, par exemple, peuvent un petit peu arrondir les notes des élèves pour rétablir un peu d'équité. Donc tout ça, c'est sabré pour essayer de vraiment voir quel est le classement réel des élèves de toute la France. Et en fait, ce qui rend un peu fou, c'est que par ailleurs, dans les programmes, on enseigne le développement durable, l'égalité homme-femme, liberté, égalité, fraternité, gna gna gna. Et en fait, on est tous de plus en plus mis en contradiction. Et si je parle de l'école, bon bah voilà, j'enseigne, ça me tient à cœur, mais c'est aussi parce que ça me paraît évident que c'est pas juste un élément parmi d'autres, mais que c'est un des leviers les plus importants du changement social. Et que quand on voit qu'il y a une combinaison dans cette institution qui pourrait être l'occasion de changement social entre des logiques de reproduction sociale énorme plus des logiques de changement qui vont dans un sens de plus en plus néolibéral, de plus en plus sélectif, de plus en plus technologique, etc., avec une sorte de greenwashing par-dessus le marché dans l'institution qui est censée faire l'éducation des enfants, on se demande effectivement par où prendre le truc, quoi.
On est en train de conclure, du coup, moi, je serai très, très brève, hein, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est la parole qui a été apportée jusqu'à nous par les femmes et les hommes zapatistes qui sont venus récemment, là, depuis le Chiapas et le Mexique de manière générale. Et ce que elles et ils ont répété, et je pense qu'en fait, c'était vraiment le fond de la question, c'était... Tout ça, et tu l'as aussi dit de manière assez claire, même très claire, c'est nous opposer les uns les unes aux autres, nous diviser, nous mettre en compétition permanente et nous isoler, parce que isolé, on est plus faible et on est plus facilement démoralisé, écrasé, surveillé, puni, etc. Donc vraiment, les zapatistes disaient, le trésor est ce que nous on construit et ce qu'on vous invite à construire aussi, c'est l'organisation. Organisez-vous, organisons-nous, ne restons pas isolés, organisons-nous de plein de manières différentes, à plein de niveaux, plein d'échelles, sur plein d'objectifs, mais organisons-nous, ne restons pas isolés. Donc vraiment, je pense que c'est ça l'appel à entendre. Il y a plein de manières de le faire et on l'est déjà en partie. Renforçons ce qu'on a déjà et imaginons de nouvelles formes d'organisation. Voilà. Et on vous remercie de votre présence, qui est déjà un début tout à fait encourageant. Voilà.